Alors, le Seigneur, notre Dieu, nous conduit comme un berger sur le chemin de notre vie, sur le terrain de notre vie, de tous les jours. Mais comment le suivre? Comment avancer en accord avec lui? Que ce soit, alors, c'est pas dans les clairières en général, hein. C'est au bureau, à l'atelier, au magasin, en salle de classe, en salle de réunion, à la maison, à l'hôpital, dans les extérieurs, dans les transports. On a des vies tellement différentes et tellement variées. Mais le chemin reste le même, dans la mesure où le berger reste le même. Comment avancer à la suite de notre berger? Dans sa lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul donne quelques conseils qui restent pertinents pour notre vie aujourd'hui, et je vous propose de les lire. Donc, je vais lire dans Colossiens 3, chapitre verset 22, au chapitre 4, verset 1. Mais avant de lire, quelques remarques. Avant notre texte, Paul a rappelé que l'œuvre du Christ en nous, nous transforme. Dieu fait de nous des personnes nouvelles pour refléter à notre tour l'amour et la sainteté de Dieu en s'efforçant de rejeter tout ce qui peut nous déformer et nous abîmer et puis d'adopter tout ce qui est rayonnant, tout ce qui vient de Dieu. Et puis, Paul va définir un petit peu plus, va préciser un petit peu plus ce qu'il vient de dire en accentuant particulièrement sur les relations du quotidien, les relations entre une femme et son mari, entre des enfants et leurs parents, entre des esclaves et des maîtres. Et moi, j'aimerais lire avec vous ce matin le passage qui a trait à la relation entre les esclaves et les maîtres. Et c'est là qu'il faut avoir conscience que le contexte n'a rien à voir. On se doute bien qu'entre l'époque de Paul, il y a 2000 ans, dans la Méditerranée de l'Est, et nous, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de points communs. Mais bon, dans un couple, on se dit, c'est universel. Entre des parents et des enfants, il y a des enjeux qui durent, qui reviennent. Mais la relation entre des esclaves et leurs maîtres. Dans l'Antiquité, l'esclavage est extrêmement répandu, jusqu'à parfois un tiers de la population. Même un foyer très pauvre, il est dit, on a retrouvé des sources de l'époque, même dans un foyer très pauvre, on compte parfois jusqu'à deux esclaves. Si vous n'avez pas d'esclaves, en fait, bah c'est que vous êtes esclave. Il n'y a pas tellement de solutions. Comment on devient esclave? Bah on peut naître esclave si nos parents l'étaient avant nous, on peut se vendre comme esclave si on a des dettes impossibles à rembourser, et on peut aussi devenir esclave suite à une défaite militaire, quand une ville est vaincue par une autre puissance. La population peut être emportée en esclavage. Et quand on est esclave, on travaille. Et on peut travailler de plein de façons différentes, dans plein de milieux différents, avec plus ou moins de confort. Parfois, ça sera simplement l'intendance de la maison, ça peut être la cuisine, ça peut être le travail dans les champs, dans l'entreprise familiale, dans l'artisanat. Ça peut aussi être dans l'administration, avec parfois des postes assez hauts, équivalents à Premier ministre, vous voyez, vraiment des postes très hauts. Et puis parfois, on peut être dans des grosses exploitations impersonnelles, comme par exemple les mines où l'on extrait du métal, qui sont extrêmement dures et déshumanisantes. En fait, très souvent, le travail d'un esclave va ressembler au travail d'un salarié. La différence, elle est énorme. Bon, outre le fait que l'esclave n'est quasiment pas payé, la différence, c'est que l'esclave appartient à son maître. Il est totalement privé de liberté, il ne s'appartient plus à lui, il n'a pas de choix à faire, il n'a aucun droit social et il est quasiment privé de considération. La plupart du temps, ce sont les maîtres qui ont tous les droits. Et si vous tombez sur un bon, bah c'est dur, mais c'est vivable. Si vous tombez sur quelqu'un de cruel, bah c'est l'enfer sur terre. Aujourd'hui, le système social en Occident est différent, ce qui ne veut pas dire que tout est rose. On peut avoir parfois, à différents degrés, cette impression de ne plus s'appartenir, d'être à la merci de quelqu'un d'autre, d'être coincé, d'être écrasé. Et du coup, les conseils de Paul sont particulièrement pertinents. Donc je vous propose de lire maintenant, d'afficher le texte. Merci. Donc Paul s'adresse d'abord aux esclaves. « Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres d'ici-bas. » Ne le faites pas seulement quand ils vous surveillent pour leur plaire, mais obéissez d'un cœur sincère, parce que vous reconnaissez l'autorité du Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des êtres humains. Rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera, vous recevrez l'héritage qu'il réserve aux siens. Car le véritable maître que vous servez, c'est le Christ. Mais celui qui fait le mal en subira les conséquences, car Dieu n'avantage personne. Maître, traitez vos esclaves d'une façon droite et juste. Rappelez-vous que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Pour résumer, Paul invite les esclaves à travailler avec consécration et les maîtres à traiter leur maison et leurs esclaves en particulier avec justice. Pourquoi ces remarques-là en particulier ? On peut afficher la diapo d'après. Merci. Du côté des maîtres, la tentation est grande d'abuser de son pouvoir, de céder à la violence, au mépris, à la cruauté, de surcharger les esclaves de demandes impossibles, bref, d'être injuste. Sans parler d'esclavage, je pense que dans votre vie, vous avez l'expérience de voir qu'une personne qui a même un tout petit peu de pouvoir, tout petit peu, dans une association, à l'école, dans un groupe, partout, elle est tentée d'en abuser. On s'en rend compte, hein ? Toute personne qui a un tout petit peu de pouvoir est tentée d'en abuser. Donc quand on a un énorme pouvoir sur des personnes qui sont considérées presque comme des moins que rien dans la société, bah vous imaginez combien la tentation est grande. Et Paul s'adresse à eux en leur donnant cette exhortation très claire. Cherchez la justice et l'équité. Maîtrisez-vous, respectez ceux qui sont sous vos ordres. Il faut avoir conscience qu'à l'époque, il y a des philosophes qui disent que c'est même pas la peine de parler à des esclaves parce que c'est pas des humains comme nous. Paul lui dit, mais traitez-les avec justice et équité. J'y reviendrai. Du côté des esclaves, merci. Peut-être que vous avez bondi intérieurement tout à l'heure, j'ai vu personne faire ça, mais peut-être que vous avez intérieurement bondi en entendant « obéissez en tout ». Quand même. Faire tout ce qu'on nous demande, même si c'est n'importe quoi. Est-ce que c'est vraiment ça que Paul nous invite à faire ? Alors d'un côté, les esclaves dans cette société-là n'ont pas trop le choix, donc Paul est réaliste. D'autre part, je pense que Paul ne parle pas ici de cas de conscience, vous voyez, des dilemmes, des cas éthiques hyper compliqués, mais plutôt de la vie quotidienne et du travail régulier avec les tâches plus ou moins difficiles à accomplir, répétitives, ennuyeuses ou désagréables. Et dans ce travail régulier, à l'époque comme aujourd'hui, il y a plusieurs tentations. La lenteur à l'ouvrage, une attitude impertinente, le vol, le mensonge, c'était très répandu à l'époque. À l'époque, on n'avait pas des téléphones pour aller sur Instagram pendant les pauses et faire durer, mais on pouvait très bien saboter son travail. Ça, c'est universel et c'est depuis très longtemps. On trouvait bien sûr des façons de faire pour saboter le travail que le maître demandait de faire, pour se venger s'il avait été cruel, pour agir avec négligence, pour bâcler, pour faire les choses à moitié quand on ne nous regardait pas, etc. Clairement, ça ne s'est pas resté dans l'Antiquité. Cette tentation d'échapper à ce qu'on nous demande de faire, surtout quand c'est injuste, ces tentations demeurent à chaque fois qu'on a quelque chose à faire, en particulier quand c'est pour quelqu'un d'autre, et en particulier quand ce quelqu'un d'autre est extrêmement désagréable et injuste. Dans ce contexte, Paul pourtant appelle à la consécration, à agir avec intégrité en faisant de son mieux, en toutes circonstances, sans rechigner et sans saboter. Et même, il invente un mot pour dire de ne pas travailler seulement quand on nous regarde, mais de travailler toujours sous le regard du Seigneur, même si personne ne nous revoit, même si personne ne nous regarde, même si on ne va pas se faire bien voir, même si... Non, juste devant le Seigneur. Faire de son mieux en toutes circonstances avec un cœur intègre, sincère, entier. On peut passer à la diapo d'après. Derrière des conseils donc, qui peuvent paraître assez conventionnels, finalement, faites de votre mieux, respectez ceux qui sont sous vos ordres, Paul offre une motivation qui est, elle, inhabituelle et qui est commune pour les deux, pour les esclaves et pour les maîtres. Cette motivation, c'est de plaire à Dieu. Les esclaves. Les esclaves sont appelés à regarder plus haut que leur maître terrestre, vers le Seigneur, leur maître céleste. Et Seigneur et maître, en grec, c'est le même mot. Paul joue sur les termes là, disant regardez le maître au-delà même de celui qui est humainement sous vos yeux et qui est peut-être insupportable. En chaque situation, ils sont appelés à regarder au Seigneur, à agir pour lui, pour l'honorer, pour lui faire plaisir, en se rappelant que Dieu est là, lui, toujours présent, même si le maître ne l'est pas, et que Dieu les voit, qu'il est attentif à ce qu'ils font, et que pour lui, tout ce qu'ils font compte. En leur disant cela, Paul redonne de la dignité aux esclaves. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à l'époque, on disait « mais c'est même pas la peine de leur parler ». Paul, lui, s'adresse directement à eux, et c'est même la recommandation la plus longue qu'il fait dans la fin de la lettre aux Colossiens. C'est comme s'il les prenait à part en disant « vous êtes important, ce que vous faites est important, la façon dont vous faites les choses est importante parce que vous êtes important aux yeux de Dieu ». Ils sont responsables de leurs actions devant Dieu et leur intention est importante, ils ont le choix. Ils n'ont pas le choix forcément de choisir ce qu'ils font, mais comment ils le font. Ils ne sont pas condamnés à subir leur vie, mais ils peuvent faire de leur vie une œuvre qui honore Dieu à leur échelle. Et Paul leur appelle leur héritage dans la foi, le même héritage que pour tous les croyants. Co-héritiers du Christ, enfants de Dieu, précieux à ses yeux, promis à la vie éternelle. Ben, pour nous tous, c'est incroyable d'entendre ça, mais imaginez quelqu'un qui n'a rien, qui ne possède rien, qui n'a aucun droit, aucun, ni sur le plan juridique, qui ne peut pas se marier, qui ne peut pas posséder de choses, qui n'est même pas maître de ses enfants. Parce que quand on a des enfants et qu'on est esclave, les esclaves appartiennent à notre maître. Donc ce sont des gens qui n'ont rien. Et Paul leur rappelle qu'ils sont co-héritiers du Christ. Comme les autres. Comme les autres. Quelle dignité il leur redonne. Ils ont l'héritage des cieux. Et puis ils se tournent vers les maîtres. Et Paul leur rappelle que Dieu, leur Seigneur, donc leur maître du ciel, les regarde eux aussi. Et même si Paul ne se lance pas dans toute une argumentation abolitionniste, il leur montre très subtilement que les maîtres et les esclaves chrétiens ont le même Seigneur, le même maître. Et finalement, aux yeux de Dieu, ils ont le même statut. Alors oui, sur Terre, dans la société très imparfaite et très injuste, il y a une hiérarchie dans le rapport social. Mais cette hiérarchie n'a aucune importance aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de différence de valeur entre les personnes libres ou esclaves. Dieu offre le même salut, le même héritage. Il évalue de la même façon, sans parti pris. Il n'avantage personne. Sans parti pris, il pose le même regard sur chacun. Ce qui compte à ses yeux, c'est ce que nous faisons dans notre situation. Est-ce que nous agissons pour le bien ou est-ce que nous cédons à nos dérives? Paul évoque à la fois la carotte et le bâton. La carotte, d'un côté, la récompense pour la personne qui choisit la justice, et puis de l'autre, la désapprobation, la sanction pour celui ou celle qui cède à l'injustice, quelle qu'en soit la forme, que ce soit un abus de pouvoir ou que ce soit du sabotage par en dessous. Mais que ce soit la récompense ou la sanction, ce qui est dit, c'est la même chose, c'est que Dieu sait tout, connaît tout ce que nous faisons, et pourquoi ? Et c'est important pour lui, il le prend en compte, il y répondra. Alors je ne pense pas qu'il faille imaginer que Paul ici parle du salut, un peu comme si on avait un salut sous condition. Si vous êtes juste dans votre vie, si vous travaillez bien, si vous êtes obéissant, alors vous resterez sauvé. Sinon, je pense que quand on connaît un peu Paul et sa passion, son enthousiasme pour la bonne nouvelle de l'Évangile qui annonce le salut par grâce, reçu par la foi seule, c'est anti-paulinien d'imaginer que le salut pourrait dépendre de notre travail, de la façon dont on se comporte. Et en même temps, même si le Christ nous sauve, même si on croit fermement que le Christ est le seul parfait qui obtient pour nous le pardon de toutes nos défaillances et de tous nos dysfonctionnements, croire qu'on est sauvé par grâce ne nous autorise pas à faire n'importe quoi. C'est un appel à vivre différemment dans une autre dynamique. en comptant sur l'aide de Dieu et sur son pardon quand on défaille. Donc le salut n'est pas le moyen de se reposer en disant « bon, c'est pas grave, je suis pardonné ». Pas du tout. Le salut nous relève, nous met en marche et nous pousse à vivre différemment, quelle que soit notre situation, à vivre d'une façon qui plaît à Dieu. Alors, je n'ai aucune idée de ce à quoi ressemble la récompense dont parle Paul. Il y a quelques passages comme ça dans le Nouveau Testament qui évoquent la récompense. J'ai toujours pas compris, donc on peut en discuter après si vous voulez, si vous avez des éclairages. Mais ce que je comprends pour l'instant, c'est que pour Dieu, nos actions de chaque jour, nos choix, nos attitudes ont du poids. Ça a de la valeur. Même si personne ne le remarque, pour lui, ça compte. Ce n'est pas perdu. Donc on n'a pas à céder au fatalisme, au découragement. Lui, il le voit et pour lui, ça compte. Je ne sais pas comment il le montrera par la suite, mais ce n'est pas perdu. Alors si on s'éloigne du contexte de la relation maître-esclave, il me semble que l'appel de Paul reste pertinent. Qu'on ait peu ou beaucoup de pouvoir, qu'on soit très libre ou coincé, Dieu nous appelle à vivre pour lui à chaque instant. Et j'aime cette invitation à vivre avec un cœur sincère. Et tu en as parlé tout à l'heure, hein, de ce cœur entier qui n'est pas partagé, qui ne sait pas là je fais ça et puis là je montre une autre facette de ma personnalité. Et puis... Non, un cœur simple, c'est un cœur unique, on pourrait dire. C'est un cœur entier, intègre, avec l'idée qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de double vie. Il n'y a pas d'hypocrisie. À chaque instant, nous vivons devant Dieu parce que Dieu est là et nous choisissons, nous pouvons choisir de faire ce qui lui fera plaisir. Ce n'est pas seulement à l'Église hein, qu'on honore Dieu. Thierry l'a rappelé, l'Église c'est nous, ce n'est pas seulement le bâtiment. C'est tous les jours que nous sommes appelés à faire de notre vie un cadeau, une offrande pour lui. C'est ce que Paul dit autrement dans sa lettre aux Romains au chapitre 12, « Que toute votre vie soit une louange à Dieu, le signe qu'il vous a transformé, le reflet de sa bonté. » Je paraphrase. Ça implique bien sûr le témoignage, par nos actions, par nos paroles et nos choix. Mais le propos de Paul évoque aussi d'autres façons d'honorer Dieu dans notre vie. Ça ne s'exclut pas, hein, parce que plus on est cohérent dans notre vie, plus on est entier, plus notre témoignage a du poids aux yeux de ceux qui nous entourent. Alors, je prolonge un tout petit peu pour détailler un petit peu comment honorer Dieu au quotidien, que ce soit dans le cadre du travail, mais sur le terrain de n'importe quel engagement, de n'importe quelle obligation, partout où nous pouvons avoir un impact. Alors, on peut passer, voilà, et on peut mettre le premier point. Faire du bon travail. Martin Luther, un des pères de la réforme protestante au XVIe siècle, aurait dit « Un bon cordonnier chrétien, ce n'est pas un cordonnier qui brode des petites croix sur les chaussures qu'il fabrique, c'est un cordonnier qui fabrique de bonnes chaussures. » Autrement dit, quelqu'un qui fait bien son travail. Pour Dieu, notre désir de faire le bien et de bien le faire compte. Dans l'Église, on le rappelle souvent, nous avons des dons, des talents, des appétences, des compétences pour nous édifier les uns les autres, pour nous encourager les uns les autres. C'est vrai dans l'Église, mais je crois que c'est vrai aussi au-delà de l'Église, dans la société, dans la création en entier. Dieu nous a créés interdépendants, différents, complémentaires, pour que chacun contribue au développement du groupe. Ce n'est pas que dans l'Église qu'on est appelé à contribuer pour la gloire de Dieu. Partout, partout, nous sommes dans la famille, l'entreprise, la classe, l'association, etc. Faire du bon travail, faire de son mieux, hein, si on sort du cadre professionnel, c'est apporter notre contribution au monde que Dieu a créé et que Dieu soutient aujourd'hui. C'est participer à sa grande œuvre, que ce soit dans le fait de pourvoir aux besoins des autres, par exemple, en étant soignant, en vendant ce dont ils ont besoin, en enseignant, en fabriquant. Ça peut être dans le fait de contribuer à l'harmonie et à l'ordre, en aménageant le territoire, en réparant, en nettoyant, en rangeant, etc. Ou encore en apportant de la beauté et de la joie, au-delà de ce qui est strictement utile, par l'art, la créativité, le rire, le jeu, comme un signe de la joie de Dieu lui-même, qui nous invite à vivre une vie en couleur et pas une vie en noir et blanc. Donc faire du bon travail pour participer à la grande œuvre de Dieu dans le monde. Et puis il y a ce qu'on fait et il y a comment on le fait. L'accent de Jésus, l'accent du Nouveau Testament, l'accent de la Bible en général, porte souvent sur notre caractère. La douceur, la bonté, la patience, la maîtrise de soi, l'humilité, la joie, l'amour. Alors parfois on se dit oui mais on a des caractères, on a des personnalités différentes, on est tous, il y en a, je sais pas moi, il y en a qui sont plus taciturnes, plus timides, d'autres qui sont très exubérants, il y a des gens très intellectuels et puis d'autres beaucoup plus manuels. Mais en fait vous pouvez être timide ou exubérant, ça ne vous empêche pas d'être patient. Vous pouvez être intellectuel ou manuel, vous pouvez être bienveillant, ça change rien, ça, ou humble. Vous voyez, c'est pas le caractère, c'est pas la même chose que la personnalité. Mais ce caractère que Dieu nous invite à porter, c'est celui du Christ lui-même. Ce caractère qui était tellement attirant, parce qu'il était rempli d'amour. À travers la façon dont nous faisons les choses, même si ce n'est pas des choses incroyables, hein, mais la façon dont nous faisons les choses reflète le caractère même de Dieu révélé en Christ, infusé en nous par l'Esprit. Et puis, donc faire un bon travail, modeler un bon caractère, et puis être un canal de grâce et d'amour. Parce que faire un bon travail, c'est normal, normalement, qu'on soit chrétien ou pas, votre employeur attend que vous fassiez du bon travail. Et Dieu n'a pas fait juste ce qui était attendu envers nous. Il est allé beaucoup plus loin. Il est allé au-delà dans sa grâce et sa bonté. Et ce qu'il a fait pour nous, il nous invite à le faire à notre tour, par grâce. Pas seulement de faire ce qu'il faut faire, mais d'aller un petit peu au-delà. Dans la notion de grâce, il y a cette idée de faire un pas de plus, de prendre l'initiative pour, en quelque sorte, pour déborder. C'est une attitude de générosité qui offre plus. Vous savez, souvent, on est très préoccupé par ce à quoi on a droit et ce que les autres n'ont pas le droit de nous demander. Hein, les clauses du contrat très exactes. Et après, peut-être certains excès dans des situations qu'on connaît dans nos familles ou dans certains contextes de travail, on a tendance à rétrécir en disant « Ah, là, j'irai pas au-delà de la limite. » Mais ça, c'est pas généreux. Si Dieu avait fait ça avec nous, on serait tout en bas. Certains abusent, oui, et il faut rester vigilant, il faut parfois poser des limites saines. Jésus le fait aussi. Mais ressembler au Christ, c'est le suivre sur un chemin de générosité qui nous pousse à faire un pas de plus pour l'autre. Pas forcément à changer de chemin, mais faire un pas de plus pour l'autre, tendre la main, être débordant, débordant de grâce. Ainsi, Dieu devient peu à peu notre motivation principale, à tous, à toutes, pour agir avec justice. C'est essentiel, hein, pour être un bon témoignage, pour ne pas être hypocrite. Mais au-delà de ce que les autres voient, je suis frappée de voir à quel point Paul souligne combien c'est important pour Dieu que nous menions une vie cohérente, combien c'est important pour lui que nous nous approprions ses valeurs à lui, que nous lui ressemblions toujours davantage, parce que nous sommes ses enfants dans la foi, que nous choisissions ce qu'il aime, lui, indépendamment de ce que les autres voient, évaluent ou font. Et Dieu se réjouit. Je pense que c'est comme un père ou une mère qui regarde ses enfants et qui se réjouit de voir les ressemblances et puis certaines différences aussi parce qu'elles sont belles. Et je pense que Dieu se réjouit quand il nous voit et qu'il dit « Oh, c'est génial, il s'est approprié cette qualité, il s'est approprié ce désir, cette valeur, cette mission. » Même quand celui qui est au-dessus de nous ne nous voit pas, même quand les gens autour de nous sont difficiles, même quand ce qu'on nous a demandé de faire est ennuyeux, même quand on nous agace, le Père, notre Père, se réjouit quand nous choisissons de lui ressembler et de faire les choses pour lui. Alors le Seigneur est un Dieu de grâce. Il a montré sa grâce à la croix et on va commémorer cet acte tout à l'heure. Mais sa grâce n'est pas restée à la croix, elle n'est pas restée à la résurrection. Elle est vivante aujourd'hui, chaque jour, dans notre vie. Il nous accompagne, il nous offre son esprit qui travaille inlassablement dans notre cœur pour nous transformer à l'image de Dieu. Et notre part, on va dire, il n'y a plus qu'à. Hein. Non. Notre part, c'est de chercher, de demander, de prier, de nous rendre disponibles pour que Dieu nous conduise et nous apprenne à le servir du mieux possible, là où nous sommes, qui que nous soyons. Je vous invite à prier.